se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon est à seulement 6,49€.
À ce prix-là, j'invite mes amis à dîner demain soir. Je vais leur faire ma recette de dorade au four.
J'en connais qui vont se régaler comme des rois.
Vous voulez venir ?
Ah bah oui ! Auchan, avec plaisir. 6,49€, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon. Élevé en Grèce, pièce de 300 à 600 grammes. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous, il est 7h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un nouvel adolescent tué en pleine rue ce week-end à Châteauroux. Il avait 15 ans. Un mineur et sa mère ont été placés en garde à vue.
Et il était connu pour des faits de violence. Beaucoup de questions se posent autour de cette nouvelle agression. On en parle juste après votre journal avec un syndicat policier. Il est le témoin du jour.
À 3 mois des Jeux Olympiques, l'État tente de sauver Athos et se tient prêt à nationaliser les activités de défense et de cybersécurité. Et puis le PSG, sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire, le club de la capitale peut désormais rêver d'un quadruplé historique.
Une mère et son fils en garde à vue ce matin après la mort d'un adolescent à Châteauroux.
Mathis, 15 ans, tué de plusieurs coups de couteau en fin de journée samedi pour une raison encore inconnue. Le principal suspect, lui aussi âgé de 15 ans, était déjà sous contrôle judiciaire pour une autre agression une semaine plus tôt. Et sa mère pourrait avoir joué un rôle dans la mort du jeune Mathis ce week-end. Un drame auquel plusieurs habitants de ce quartier de Châteauroux ont assisté et qu'ils ont accepté de raconter au micro RMC d'Ameline Lafchin.
C'est au pied de son immeuble que s'est passé le drame. Marie-Mathilde était chez elle quand elle a entendu du bruit.
J'étais à la fenêtre, là j'ai vu un jeune homme à terre. Tout de suite je suis descendue aider, il était blanc de chez blanc. J'étais choquée, je comprenais pas ce qui se passait. Et c'est quand on a soulevé le t-shirt et qu'on a vu les coups de poignard que là ça a été vraiment impressionnant.
Rapidement les secours interviennent, mais l'adolescent décède au cours de la soirée. Depuis, cette mère de famille ne cesse d'y penser.
Je peine à rester là, là c'est mentalement c'est très 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 dur.
Au rez-de-chaussée du même bâtiment, une autre voisine a elle aussi assisté à la scène.
J'en ai pleuré parce que c'est horrible hein, de voir le petit par terre comme ça, plein de sang. Moi, je pense aux parents des deux côtés qui doivent être dévastés.
La procureure de Châteauroux expliquait hier que l'agresseur présumé avait été mis en examen il y a une semaine pour vol aggravé avec violence. Connu de beaucoup dans le quartier, son implication n'étonne pas vraiment Fabrice.
Quand j'ai connu, il avait 13-14 ans, c'était un petit garçon qui était super gentil. Ça fait un an qu'il a complètement changé, même avec moi. Il se permettait d'hausser la voix, il voulait me taper. Dès qu'on a vu qu'il avait des soucis, c'est tout de suite qu'on aurait dû prendre soin de lui. Peut-être pas l'incarcérer, mais le mettre dans une maison où il ne puisse pas sortir, où on puisse s'occuper de lui.
Hier, on apprenait que sa mère avait également été placée en garde à vue, soupçonnée d'avoir joué un rôle dans cette affaire.
Et pour en parler, juste après ce journal, Apolline recevra Rudy Mana, le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. De son côté, le maire de Châteauroux a réagi dans un communiqué. Il réclame une peine exemplaire et dénonce cette ultra-violence, dit-il, qui gangrène notre société. Ce sera justement le cœur du sujet des consultations menées à partir d'aujourd'hui par le Premier ministre Gabriel Attal, qui va recevoir les représentants de tous les partis politiques pour tenter d'endiguer la violence chez les jeunes. Il est 7h02 sur RMC. L'Île-de-France est prête comme jamais pour les Jeux Olympiques. Voilà ce que nous dit Valérie Pécresse, manifestement très optimiste dans une interview au journal Le Parisien. La présidente de la région Île-de-France qui assure par ailleurs que la ligne 14 du métro parisien prolongée sera prête fin juin. Mais qu'en est-il de l'autoroute A13 fermée depuis 10 jours entre Paris et Vaucresson à cause d'une fissure provoquée par un mouvement de terrain? L'axe ne pourra pas rouvrir au 1er mai comme prévu. Il va donc encore falloir s'armer de patience, Inès Zegloul.
17 kilomètres seulement séparent ce résident des Yvelines du centre de Paris. 17 kilomètres, mais la 13 fermée.
Ça me fait un très gros détour.
Car Wessigny a dû revoir tout son itinéraire. Désormais, il emprunte des départementales, coupe à travers les centres-villes et chaque matin, pour aller travailler, ce n'est plus une demi-heure de trajet, mais...
1h3/4. Je dors 5h30, quoi, maintenant. J'arrive très fatigué au travail.
Des axes saturés où se déversent les usagers de la 13 par choc contre par choc.
Pour être à l'heure, il faut que je parte vers aller 6h30.
Alors Jérémy a trouvé une solution.
Oh, ça serait trop compliqué, ça serait trop la galère. Donc je me suis dit, non, je vais télétravailler pour que ce soit plus simple.
Oui, mais alors, jusqu'à quand? Car tous réclament une réouverture rapide, mais Walid Mouali, spécialiste des infrastructures routières, n'y croit pas.
Les fissures, elles ont évolué. Elles ont donné lieu à des micro-fissures par endroits. Là, pour le coup, il y a une petite inquiétude à avoir. Je pense qu'il ne faut pas être très optimiste quant à une réouverture prochaine de cette portion d'autoroute.
Des experts se réunissent en tout cas aujourd'hui pour envisager une nouvelle date de reprise du trafic.
Et pour en parler, le ministre des Transports, Patrice Vergriet, sera l'invité d'RMC à 7h40. L'occasion aussi de revenir sur la demande de plusieurs élus, dont Valérie Pécresse, qui réclame des compensations financières. Mais avant les automobilistes, l'État vole à la rescousse d'Atos. Le géant français de l'informatique se porte mal. L'État lui avait déjà promis un prêt de 50 millions d'euros et il est désormais question de racheter une partie des activités de l'entreprise. C'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui l'a annoncé hier sur LCI.
Il y a dans Atos un certain nombre d'activités qui sont stratégiques pour la nation française. En matière de cybersécurité, en matière de cybercalculateur, en matière de nucléaire. J'ai déposé ce week-end une lettre d'intention en vue d'acquérir toutes les activités de souveraineté d'Atos. Car c'est le rôle de l'État de défendre les intérêts stratégiques d'Atos et d'éviter que des technologies qui sont sensibles, qui sont décisives en matière de supercalculateurs ou en matière de défense, puissent à n'importe quel moment dépendre d'intérêts étrangers.
C'est aujourd'hui que le Hamas doit donner sa réponse à la proposition de trêve à Gaza avec Israël et l'un de ses responsables a déjà indiqué qu'il n'y avait aucun problème majeur sur cet accord. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé sa tournée au Moyen-Orient. Après l'Arabie Saoudite, il se rendra en Jordanie puis en Israël. Il est 7h05. Faut-il entrevoir une porte ouverte à la légalisation en France de la GPA, la gestation pour autrui, au cœur d'une nouvelle polémique depuis plusieurs jours lancée par Marion Maréchal, la candidate Reconquête, après l'annonce de la GPA du styliste Jacques Mus et de son compagnon. En tout cas, au sein de la majorité, des voix commencent à s'élever, y compris celle de la ministre chargée de l'enfance, Sarah El Haïry. Il faut sortir de l'hypocrisie, c'est ce qu'elle a dit hier sur RMC, sauf qu'on est loin, Hélène Terzian, de la position d'Emmanuel Macron.
C'est son avis personnel, la cause lui tient à cœur. Au sein de l'exécutif, la prise de position de Sarah El Haïry est vue avec bienveillance, comme le confie ce conseiller macroniste, mais gare à ne pas aller trop loin. Elle en fait trop, lâche le même, elle sait que c'est un sujet sensible. La ministre veut ouvrir le débat, mais sait que sa voix est dissonante, sans l'appui de ses anciens collègues, Olivier Dussopt, Clément Beaune, qui s'était ouvertement prononcé pour, et ce, malgré la ligne du président. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, l'a rappelé la semaine dernière.
La ligne est claire, et la ligne si vous voulez, je la rappelle, les GPA n'est pas autorisée en France.
La ligne, c'est pas de GPA, point barre, enfonce un conseiller de l'exécutif et il n'y a aucune chance que le débat s'ouvre, balaye un autre. Quelques députés de la majorité se prononcent hors micro pour une GPA dite éthique qui considère la place de la mère porteuse, peut-être sans rémunération, mais c'est loin d'être une priorité, le sujet est trop clivant et ce n'est pas le moment, insiste une parlementaire, au moment où le texte sur la fin de vie est sur le point d'être examiné.
7h06, en football, le PSG peut dire merci Lyon grâce à la victoire de l'OL 3-2 sur Monaco. Les Parisiens ont été sacrés hier champions de France pour la 12e fois de leur histoire. Avec nous pour en parler ce matin, Loïc Braillet. Bon Loïc, c'est un train qui arrive à l'heure, mais c'est surtout une bonne chose de faite avant la semaine cruciale qui démarre pour les Parisiens.
Oui, Élise, alors être champion sans jouer, ce n'est pas forcément ce que les Parisiens avaient prévu, mais c'est idéal pour la confiance avant d'aller défier Dortmund dans deux jours. Dortmund qui a perdu samedi 4-1. Les Allemands vont accueillir dans deux jours une équipe en pleine confiance, un club 12 fois champion de France, un record, et qui a remporté hier le 50e titre de son histoire. Paris est toujours en lice donc pour signer un quadruplé historique. Il a fait la moitié du chemin, déjà vainqueur du trophée des champions, et donc désormais du championnat. Place maintenant aux demi-finales de Ligue des Champions, avant la finale de la Coupe de France face à Lyon. Quoi qu'il arrive, les supporters parisiens peuvent déjà cocher la date du 12 mai pour voir Kylian Mbappé et ses coéquipiers soulever le trophée de champion de France lors du dernier match au Parc des Princes de la saison face à Toulouse.
Merci Loïc Braillet. L'autre bonne nouvelle de ce week-end, c'est Brest qui sera européen la saison prochaine après sa victoire spectaculaire 5-4 face à Rennes. De son côté, l'OM se replace dans la course à l'Europe en battant Lens 2-1.
Et c'était le journal d'Élise Dangean. On vous retrouve pour le journal de 8h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Il est 7h08 pour l'heure.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Vous l'avez entendu à l'instant, un nouvel adolescent a été tué. C'était ce week-end à Châteauroux après une agression au couteau par un autre adolescent. Un suspect qui est en garde à vue et qui est connu pour des faits de violence. Beaucoup de questions, vous allez l'entendre, se posent autour de cette nouvelle agression. Et on en parle dans un instant avec un syndicaliste policier, Rudy Manard. Il est le témoin du jour.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h10, excellent réveil à tous.
Le témoin RMC.
Et c'est l'heure du témoin RMC avec vous, Rudy Mana, bonjour.
Bonjour, Pauline de Malherbe.
Vous êtes porte-parole du syndicat de police Alliance. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RMC. Après cette agression ce week-end à Châteauroux, un adolescent de 15 ans, Mathis, qui a été tué par un autre jeune de 15 ans. Et on découvre, dans les informations données par le procureur, que le suspect, qui est en garde à vue avec sa mère d'ailleurs, était connu de la justice. Il avait été mis en examen pour vol avec violence quelques jours seulement après cette agression.
Oui, ben oui, écoutez, c'est bienvenue
avant cette agression,
pardon,
évidemment.
Oui, mais bienvenue en France aujourd'hui, quoi. Dès que nous avons un mineur de moins de 16 ans, bien évidemment, c'est extrêmement compliqué pour les magistrats qui n'ont pas les moyens légaux de le faire, hein, il faut se dire les choses, de placer en détention ces jeunes-là parce que l'excuse de minorité, on peut la casser, cette excuse de minorité entre 16 et 18 ans, mais en dessous de 16 ans, c'est difficile de le faire. Alors, imaginez la famille de ce petit Mathis qui, elle, quand même, il faut le rappeler sous votre antenne, a pris perpétuité. Quoi qu'il arrive, elle a pris perpétuité parce qu'elle a perdu un enfant de 15 ans qui a pris, je le rappelle à Pauline, 4 coups de couteau. 4 coups de couteau dans le thorax. Donc, je veux dire, c'est un acharnement presque, parce que quand il y a un coup de couteau, ça peut être que juste un énervement.
Oui, ça n'a pas ripé. En effet, ce que vous dites, Rudy Mana, c'est que c'est un acharnement avec véritablement la volonté d'aller au bout. Vous disiez à l'instant, ils n'ont pas les moyens légaux. Je vais préciser effectivement les choses, parce que quand on lit attentivement le communiqué du procureur, on sent une forme d'aveu d'échec, au fond, de la part du procureur lui-même. Il dit « Le mineur a été placé sous contrôle judiciaire, la semaine dernière donc, pour des faits de vol avec violence. » Et il précise, je cite, « Seule mesure de sûreté prévue par le Code de la justice pénale des mineurs pour un mineur de son âge sans condamnation antérieure. » Sous-entendu, nous n'avions pas d'autres options. Et je précise d'ailleurs que l'auteur présumé donc de ces coups de couteau mortels avait non seulement été mis en garde à vue la semaine précédente, hein, et donc laissé en liberté, mais également 3 semaines avant, en février. Donc c'est donc comme si il a vu la police et la justice il y a en février, il a eu affaire à eux en avril, et puis finalement la mort de Mathis. C'est vrai que c'est, on comprend que l'aveu d'échec soit total.
Tout à fait. Et puis vous parlez de l'aveu d'échec, effectivement, à travers cette phrase, ça prouve l'aveu d'échec, mais imaginez l'aveu d'impuissance aussi des policiers, qui, je le rappelle, dans cette affaire, ont interpellé l'auteur des faits 2 heures après les faits.
2 heures après la bagarre, ouais.
2 heures après la bagarre, on a réussi à l'interpeller. Donc déjà, je voudrais féliciter tous ces collègues policiers qui ont procédé rapidement à cette interpellation. Mais imaginez l'aveu d'impuissance que nous avons à longueur de journée. Parce que combien de mineurs on interpelle tous les jours? Vous savez, en 20 ans, la délinquance des mineurs a doublé en France. Donc on a affaire tous les jours à des gamins de 14, 15 ans. Alors beaucoup aussi entre 16 et 18 ans. Et on se rend compte que malheureusement, les sanctions pénales n'aboutissent pas derrière. Il n'y a rien, en fait, contre ces individus. Donc, il y a un vrai sentiment d'impunité de ces gamins-là. Et comme vous l'avez très bien décrit, ben, en 3 mois, il a été interpellé 3 fois par les services de police et on est arrivé à la 3e fois, un drame absolu.
Donc, ça veut quand même dire, et c'est vrai que c'est terrible, c'est-à-dire on essaye de se mettre à la place de la famille de Mathis, mais c'est évidemment chose impossible, ce drame absolu, en se disant, mais je comprends pas, c'est-à-dire que la police l'a vu une première fois, la police l'a vu une deuxième fois, et c'est donc la 3e fois et notre fils est mort. Rudy Mana, vous avez précisé, vous avez dit cette expression, l'excuse de minorité. Je redis les choses parce que c'est déjà une question qui s'est posée il n'y a qu'une semaine, après le drame de Viry-Châtillon, Chemsidine, le Premier ministre Gabriel Attal a ouvert la question des excuses de minorité, c'est-à-dire juger les mineurs différemment des majeurs. Est-ce que si vous glissez cette expression, c'est aussi que vous vous dites, Rudy Mana, qu'au fond, il faut revoir cette question d'excuses des minorités?
Ah mais complètement, vous savez, nous, tous les policiers de France vous diront la même chose. On n'en peut plus parce qu'on est totalement impuissant face à ces mineurs. Alors bien évidemment qu'il faut que la responsabilité pénale aujourd'hui soit abaissée à 16 ans. Ça c'est une première chose. Alors pour cette affaire-là, ça n'aurait pas été une solution puisqu'il a 15 ans. Mais on commence à avoir de plus en plus d'affaires, de nombreuses affaires avec des individus, vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, des individus qui ont moins de 16 ans. Alors il va falloir trouver des solutions. Alors il faut comprendre aujourd'hui que ces mineurs, à 14 ans ou 15 ans, sont d'une violence inouïe, sont d'une violence absolue. Donc, il faut faire des propositions pour éviter que ces gamins-là soient dans la société et vivent avec la société, au moins pour un certain temps, de manière à peut-être les rééduquer. C'est ça la solution qu'il faut trouver. Alors, il y a les internats pédagogiques qui peuvent être créés.
Qui ont été mis en avant aussi par Gabriel Attal il y a 10 jours.
Pourquoi pas? Et puis, il faut aussi créer des centres éducatifs fermés, mais qui soient fermés, et fermés à double tour.
Parce qu'au fond, ce qu'on appelle centre éducatif fermé, hein, là encore, on redécouvre parfois des choses qui nous paraissent un peu absurdes, parce que ce qu'on appelle un centre éducatif fermé, en fait, c'est pas fermé. C'est-à-dire qu'effectivement, ça repose sur une forme de volontariat du jeune.
C'est ça. Complètement. On a énormément de jeunes qui s'évadent, qui partent, qui fuguent de ces centres éducatifs fermés. Et malheureusement, là encore, on est impuissants et démunis.
Et vous avez évoqué la question de l'éducation. Dans le cas d'espèce, la mère du jeune homme qui est présumé être l'assassin donc de Matisse, la mère elle-même est en garde à vue. On n'a pas encore plus de détails que ça, mais je voudrais juste repréciser les choses avec vous, Rudimana. Les parents ne sont pas automatiquement mis en garde à vue quand un enfant l'est. Hein. Donc là, ça veut dire que la mère elle-même, indépendamment de son fils, est considérée comme peut-être complice, peut-être même coupable.
Oui. Il y a probablement des éléments qui ont permis à la justice et à la police de placer sa mère en garde à vue. Effectivement, ce n'est absolument pas le cas sur les autres affaires. Ils ne sont pas considérés pénalement responsables. Et peut-être que là aussi, il va falloir qu'on fasse évoluer notre réflexion. Parce que quand on a un gamin de 13, 14, 15 ans, ben, il faut être en capacité de canaliser son gamin et de savoir que lorsqu'il a déjà commis un vol avec violence, puis recommis un vol avec violence, puis recommis un drame absolu en plantant des coups de couteau, eh bien, il faut se poser la question de savoir si les parents ne sont pas aussi en partie responsables d'avoir laissé ce jeune dans la rue avec, je le rappelle, un couteau dans la poche.
Avec un couteau dans la poche et avec effectivement deux précédentes affaires en février et en avril. Merci Rudimana. Il y a un aspect également, alors là qui pour le coup est utilisé de manière plus politique, qui est que l'auteur présumé est un adolescent de nationalité afghane en situation régulière. Ses deux parents sont venus d'Afghanistan et sont eux-mêmes en situation parfaitement régulière, mais ça a été mis en avant notamment par Éric Ciotti ou Éric Zemmour hier, qui ont considéré que c'était un autre aspect, mais pour moi c'est une autre question que celle qu'on se pose ce matin avec vous, Rudimana, qui est celle de la mise en liberté, parce que, encore une fois, je reprécise les mots du communiqué du procureur, c'est la seule mesure de sûreté pour les mineurs. Merci Rudimana d'avoir réagi avec nous. Vous êtes porte-parole du syndicat de police Alliance. Je retiens un de vos mots que vous dites tristement. Vous dites le mot impuissance. Il est 7h18.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans 20 minutes sur RMC, le ministre des Transports sera mon invité pour nous dire notamment quand la 13 va rouvrir près de Paris. Je peux vous dire qu'il y a de nouvelles fissures qui ont été découvertes. On se demande franchement si on va avoir une date, mais on lui pose la question bien sûr à 7h40. Et puis, jusqu'où ira le quoi qu'il en coûte pour éviter les grèves et la menace de grève des JO. On a l'impression que c'est le moment ou jamais de demander au gouvernement tout ce qu'on veut quand on est à la SNCF ou chez les contrôleurs aériens. Avant cela, il y aura le 7h20 d'Apolline Matin. Amélie Rosic, Arnaud Demanche et Manu Le Chypre. À tout de suite.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu avec Cyprien Pézril du service politique. Bonjour Cyprien.
Bonjour Apolline.
Ce matin, Cyprien, vous nous révélez que François Ruffin, le député La France Insoumise de la Somme, se prépare à 2027 et qu'il l'assume.
Oui, un an et demi que François Ruffin sème des petits cailloux sur son chemin, mais désormais, tout s'accélère avec l'installation du siège de son mouvement Picardie Debout, il y a quelques semaines en plein Paris et en toute discrétion. Le recrutement de petites mains pour gérer sa communication, pour organiser ses déplacements. François Ruffin s'entoure aussi, se constitue un réseau, des députés communistes, écologistes, lui fournissent des fiches sur la pêche, sur l'énergie par exemple. Il rencontre aussi des experts. François avait l'habitude de consulter, mais maintenant, c'est systématique, observant de ses soutiens. Alors faut-il s'attendre à l'annonce imminente d'une candidature à la présidentielle? Non, c'est trop tôt, aucune date n'est cochée, prévient de ceux qui travaillent pour lui. Mais il ne faudra pas partir trop tard, complète tout de suite le même. La preuve, avec un sondage commandé par son micro-parti, opportunément publié dans la presse. Résultat, sans appel, François Ruffin est le seul candidat d'Union de la Gauche testé en mesure de se qualifier pour le second tour de la présidentielle. 11 points de plus que Jean-Luc Mélenchon. Ce sondage, c'est franchement pas le moment, attaque une mélenchoniste. Un autre agacé assure qu'il n'est pas fiable. Qu'importe, un proche du député de la Somme prévient, François ne tergiverse pas. Traduction, il montre les muscles. Pour la première fois, il peut se targuer de faire mieux que Jean-Luc Mélenchon.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec autour de la table Amélie Rozic, Manu Le Chypre, Arnaud Demange. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Amélie, on a beaucoup parlé de GPA tout à l'heure avec les auditeurs. La GPA est interdite. En France, seule la PMA est autorisée, la procréation médicalement assistée. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Nathalie, l'auditrice qui nous a appelé à 7h40. Mais c'est une autre de nos auditrices qui vous a contacté pour vous demander votre aide.
Absolument, elle s'appelle Anne, elle a 43 ans. Avec son compagnon, elle veut faire un enfant, mais elle a des problèmes de fertilité et donc elle a besoin d'un don d'ovule. Et c'est le début du désenchantement. D'abord, elle est mal renseignée par l'hôpital auquel elle s'adresse. On lui dit qu'elle est trop vieille pour une procréation médicalement assistée. On va le rappeler, c'est faux. La PMA est possible jusqu'à 45 ans et prise en charge à 100% par la Sécurité sociale jusqu'à 43 ans. Mais surtout, Anne est née en Inde avant d'être adoptée par une famille française. Dans ces cas-là, les médecins font tout pour que l'enfant ait la même couleur de peau que ses parents. Il faut donc un don d'ovule par une personne de la même origine. Et ça, ça rallonge considérablement les délais. Pour un couple blanc, il faut compter 2 ans pour bénéficier d'un don d'ovule qui leur ressemble. Pour un couple mixte, c'est 3 à 10 ans.
Et comment ça se fait ?
Eh bien, parce qu'il n'y a pas suffisamment de donneuses. Fin 2022, il y avait environ 2 fois plus de demandes que de dons. En France, le don d'ovocytes, on va le rappeler, est un acte qui est gratuit, non rémunéré, possible pour les femmes entre 18 et 37 ans révolus. La procédure, elle est simple, mais elle est contraignante, c'est vrai. Il faut stimuler les ovaires avec des prises d'hormones pendant une dizaine de jours, puis passer à la ponction, le prélèvement qui se fait à l'hôpital, qui dure une dizaine de minutes et au total 3 heures.
Et comment faire pour changer la donne ?
En informant, comme nous le faisons ce matin, et en sensibilisant, comme le fait l'Agence de biomédecine. En octobre dernier, l'organisme a lancé une campagne nationale intitulée « Fête des parents », ça rappelle un peu le réarmement démographique, pour inciter aux dons. La campagne s'est arrêtée en revanche en janvier. Nous avons donc demandé à l'agence de prolonger cet effort de sensibilisation. Et c'est pour ça aussi qu'Anne nous a écrit, pour appeler aux dons, mais aussi pour inciter les jeunes femmes à anticiper leur désir de maternité.
Moi, je le dirais franchement à toutes les jeunes filles, si vous êtes d'origine étrangère et que vous avez la possibilité de faire conserver vos ovocytes, faites-le. Si elles acceptent d'être donneuses aussi, elles aideront d'autres femmes.
Aujourd'hui, la conservation d'ovocytes est possible hein, jusqu'à 35 ans. Une des solutions qui s'offre désormais à Anne, c'est l'Espagne, par exemple, où il n'y a pas de limite d'âge pour la PMA et où l'accès aux dons est facilité, ou encore l'Inde. Mais tout ça, évidemment, ce sont des démarches qui sont coûteuses.
Est-ce que vous appelez conservation d'ovocytes hein,
oui.
Je précise bien pour tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent, si elles souhaitaient le faire. C'est effectivement, en quelque sorte, ce qu'on appelle aux États-Unis le fait de congeler ces ovules, hein, c'est-à-dire de pouvoir préserver, garder, anticiper en quelque sorte. Et c'est ce que visiblement regrette Anne de ne pas avoir suffisamment anticipé ses propres ovocytes. Merci en tout cas Amélie. L'actualité éco ce matin Manu, c'est l'État qui vole au secours d'un ancien fleuron des nouvelles technologies, le groupe Atos.
Oui, Atos c'est un leader européen de services informatiques, hein, gestion de données d'entreprise, cybersécurité. Atos est notamment en charge de la cybersécurité des Jeux Olympiques. C'est une entreprise de 110 000 salariés, société qui est aujourd'hui en pleine déconfiture suite à des choix stratégiques malheureux, des acquisitions trop chères payées, une instabilité managériale chronique, le tout provoquant l'accumulation d'une dette colossale insoutenable qui est en train de faire exploser le groupe. Alors tout ça ne serait que les turpitudes de la vie des affaires si cette société ne gérait des activités stratégiques pour la France et que la volonté du gouvernement d'acquérir une partie des activités d'Atos relève donc de cette volonté de ne pas voir passer à l'étranger, entre des mains étrangères, en tout cas ces activités.
On parle de quoi ? De quelles activités stratégiques ?
Ça concerne notamment les supercalculateurs utilisés pour notre dissuasion nucléaire, des serveurs participant à l'intelligence artificielle et à l'informatique quantique ou encore des produits de cybersécurité. Ça n'est qu'une petite partie de ce que fait Atos. C'est 900 millions d'euros sur plus de 11 milliards d'euros d'activités. C'est quand même 4000 salariés, essentiellement basés en France. Aucune somme n'a été pour l'instant indiquée pour l'offre de rachat de ces activités qui sont assez peu rentables. Mais l'État a bien indiqué sa volonté de ne pas y aller seul et souhaiterait solliciter des industriels de la défense, notamment Dassault Aviation, Thales et Airbus, pour reprendre ses activités.
Donc, Xième épisode des turpitudes d'Atos.
Mais avec au milieu des questions de souveraineté nationale.
Arnaud de Manche.
C'est moi.
Mon invité ce matin, c'est Michel-Édouard Leclerc, le président du comité exécutif des Centres Leclerc.
Leclerc.
Voilà. On fait simple, voilà. Hein. Ouais. La fois, il n'y a pas
c'est
besoin
bien, c'est
de faire
efficace.
Très compliqué, efficace. Ouais. Michel-Édouard Leclerc, un homme rare dans les médias. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on le reçoit. Je ne sais même pas à quoi il ressemble, pour vous dire. C'est un grand black très musclé, je crois. Michel-Édouard...
J'essaie de
visualiser.
Ah non, on a Michel-Édouard Leclerc avec...
Okay. Michel-Édouard Leclerc est donc le patron des magasins Leclerc, un petit peu comme Hubert Félix Carrefour et celui des magasins Carrefour, ou Jean Mouloud Shopee, ou Franz Olivier Coxy Market. Et Michel-Édouard Edouard va bien. Sa part de marché chez les distributeurs vient d'atteindre 24%, loin devant Carrefour, les Mousquetaires ou le point de deal du quartier Pissevin de Nîmes. Michel Edouard
qui monte sa part de marché
en distribution française. Michel Edouard a déclaré en début de mois dernier qu'il n'excluait pas de se lancer en politique et qu'il pourrait même être candidat aux européennes. Alors attention, Michel Edouard, il y a quand même de la concurrence. Certes, il est très doué pour avoir les prix les plus bas, mais au gouvernement, t'as des cadors aussi dans ce domaine. Hein. Bruno Le Maire, depuis 7 ans, il fait des réductions partout.
Chères Françaises, chers clients, ce sont les soldes en ce moment dans votre pays, puisque la direction vous propose un budget moins 15% sur la culture, moins 20% sur la santé, moins 40% sur les allocations chômage, et... Ah, on m'annonce à l'instant les sondages des européennes. C'est aussi moins 15% pour la liste de Valérie Ayé. Allô Emmanuel ? On est mal, patron, on est mal.
Non, c'est Lidl, ça. Lidl. C'est Michel-Édouard Leclerc qui vient à 8h30. Faut pas confondre. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Arnaud. Il est bientôt 7h30. On se retrouve dans un instant pour la météo du journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer, bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le coup de bordure pour les vélos a pris une croissance record. Les ventes s'essoufflent, moins 14% l'an dernier par rapport à 2022. Exclusivité que vous révèle RMC. À l'inquiétude face à la recrudescence des cas de coqueluche en France et en Europe, Santé publique France appelle à une vigilance renforcée. Une vingtaine de clusters ont été enregistrés depuis le début de l'année en France. Et puis le PSG, sacré champion de France après la victoire de Lyon face à Monaco hier. Et dans le même temps, Brest s'assure une place européenne en battant Rennes 5-4. C'est une première dans l'histoire du club breton.
Rétro-prédalage pour les ventes de vélos.
Moyen de transport le plus vendu en 2022, les ventes de vélos neufs reculent. En 2023, en baisse de 14% par rapport à 2022. C'est le résultat d'une enquête de l'Union Sport et Cycle que vous révèle RMC en exclusivité ce matin. Qu'ils soient mécaniques ou électriques, tous les vélos sont concernés par ce coup d'arrêt, Lucas Laubert.
Oui, c'est le cas de Valère Vanier, gérant de magasin de vélos à Paris. Son chiffre a baissé en 2023.
On a eu une petite contraction, alors je vais dire moins 5 à moins 10%.
Moins de ventes, en particulier sur les vélos de ville, qui ont pourtant connu un vrai engouement ces dernières années. Frustrant pour Valère Vanier.
Cette baisse est désagréable, évidemment, parce qu'on est toujours, on va dire, dans la recherche de progression. Mais on a fait suite à la bulle Covid.
Elle a permis de démocratiser l'utilisation du vélo, plus 42% de chiffre d'affaires depuis 2019 pour le secteur. Mais cette bulle se dégonfle maintenant et les raisons sont multiples. L'inflation qui a pu freiner les consommateurs malgré de nombreuses aides et puis la météo, comme l'a observé Didier, vendeur à Paris.
Quand il fait beau, il y a du monde en magasin, il y a du monde qui appelle, il y a du monde qui vient essayer les vélos, qui achète. Et quand il fait pas beau du tout, ce qui était le cas pendant presque 6 mois, il y a beaucoup moins de monde.
Les vélos électriques, eux aussi, sont moins vendus. Moins 9% de chiffre d'affaires l'année dernière. La faute à un prix qui reste élevé, presque 2000 euros en moyenne.
Tiens, j'en parlerai juste après votre journal, Thibaut, avec mon invité, le ministre des Transports. On lui parlera aussi de l'autoroute, tiens.
Et oui, de l'autoroute A13, où des cyclistes et des joggeurs ont investi. Cette autoroute, fermée depuis une dizaine de jours, l'autoroute entre Vaucresson et la porte de Saint-Cloud à Paris, devait rouvrir mercredi 1er mai, échéance finalement repoussée jusqu'à nouvel ordre en raison de la découverte de nouvelles fissures. Santé publique France s'inquiète de la flambée des cas de coqueluche. L'organisme appelle à une vigilance renforcée face à cette maladie particulièrement contagieuse des voies respiratoires pouvant être mortelle chez les nourrissons. Un nouveau-né de 3 semaines en est mort la semaine dernière à Nice. Un rebond qui s'explique, Nicolas Repère, comme une conséquence des restrictions sanitaires liées à la crise du Covid.
Oui, inquiétude très forte de Santé publique France parce qu'il n'y a jamais eu autant de malades depuis 7 ans. 70 cas répertoriés depuis le début de l'année avec une vingtaine de clusters. L'an dernier, il n'y en avait que 2. La coqueluche est en plus extrêmement contagieuse. Par exemple, un porteur du Covid peut contaminer 3 personnes, un malade de la coqueluche jusqu'à 17. Seule barrière, la vaccination, elle est obligatoire pour les nouveau-nés, mais pas pour les adultes. Et pourtant, c'est très important, explique Daniel Floret, professeur émérite de pédiatrie à l'Université de Lyon.
La dernière recommandation qui a été mise en place, c'est de vacciner les femmes enceintes. Ces mères vont transmettre des anticorps contre la coqueluche à leurs nouveau-nés, qui vont être protégés par les anticorps maternels pendant quelques mois. Donc ça, c'est une mesure extrêmement efficace.
Principaux symptômes de la coqueluche, des quintes de toux parfois insupportables et elle est surtout dangereuse pour les nourrissons de moins de 6 mois qui peuvent parfois en mourir.
7h34 sur RMC, un mois de pluie en une journée.
Un record de précipitations hier à Lyon pour un mois d'avril. Jusqu'à 70 interventions de pompiers ont été enregistrées dans la région lyonnaise. L'autoroute A47 a été coupée. Un éboulement a même provoqué le déraillement d'un TER sans faire de blessés. Paris, champion de France grâce à Monaco, battu 3-2 à Lyon. Le PSG a donc décroché le 12e titre de son histoire. Une 31e journée de Ligue 1 marquée par la victoire de l'OM 2-1, même score en faveur de Lille à Metz. Enfin, c'était le match à ne pas manquer hier, mené 2-0 après 10 minutes de jeu. Brest s'est finalement imposé à Rennes 5-4. Un succès, Xavier Grimaud, qui garantit aux Bretons une place européenne la saison prochaine. C'est une première dans l'histoire du club.
Oui, et le cri de guerre dans le vestiaire brestois a été à la hauteur de l'exploit. Brest, habitué à jouer le maintien, vit la saison de sa vie et découvrira l'Europe l'an prochain. Le but de la victoire a plongé les Brestois en transe comme Hugo Magnetti.
C'est ce qu'on s'est dit dans le vestiaire, on ne pouvait que se qualifier sur un match comme ça. On a une équipe de fous et le match l'a prouvé. C'est carrément notre identité, c'est jamais rien lâcher et être fou jusqu'à la dernière seconde et c'est ce qui a marché.
Le directeur sportif Grégory Lorenzi était fier lui aussi, se remémorant le chemin parcouru par le 15e budget de Ligue 1.
Quand on prend le club il y a 8 ans, on était en Ligue 2, on avait 8 joueurs. Aujourd'hui, on va faire une Coupe d'Europe, c'est magique, c'est que du bonheur, c'est du plaisir et puis aussi c'est des émotions qu'on transmet à tout le public, à toute une ville, une région. Et c'est des moments exceptionnels et il faut bien évidemment ne pas banaliser et surtout les apprécier.
Message entendu par le milieu de terrain Pierre Lesmélou qui va même jusqu'à pousser la chansonnette.
Ça adresse toi, Coupe d'Europe. Et voilà, et après vous connaissez la suite.
Objectif Ligue des Champions donc, à 3 matchs de la fin, Brest a toutes les raisons d'y croire.
Et puis en rugby, Toulon tombe sur la pelouse de La Rochelle, 27-17, les Maritimes qui se replacent à la 5e place du top 14 devant leur adversaire du jour. Allez, on termine avec un détour sur la Croisette à 15 jours du Festival de Cannes. On connaît depuis ce matin la composition du jury aux côtés de la présidente Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie. C'est Romain Hoog, l'une des personnalités préférées des Français qui sera attendue sur le tapis rouge. Son nom, Omar Sy.
Et oui, encore un nouveau costume pour l'acteur de 46 ans et pas des moindres. Il sera donc l'un des 8 jurés chargés de décerner la Palme d'Or à l'issue de la quinzaine. Et c'est une consécration pour le natif de Trappes en banlieue parisienne, lui qui a commencé avec l'humour potage dans le SAV des émissions dans Marais Fred sur Canal+. Puis il y a eu Intouchable, immense succès populaire auprès de 20 millions d'entrées en France. Le film avait même été adapté aux États-Unis. Hollywood, où Omar Sy s'est fait une belle place après ses rôles dans des blockbusters, comme X-Men ou Jurassic World, et surtout après le succès de la série Lupin, tout simplement dans le top 10 des séries non anglophones les plus vues sur Netflix. À ses côtés dans le jury cette année, on retrouvera une autre actrice française qui rayonne à l'international, c'est Eva Green, muse de Tim Burton et James Bond Girl dans Casino Royale.
Le cinéphile Romain Hoog ce matin sur RMC.
Et puis les courses, le quintet c'est à Chantilly aujourd'hui.
13h55 sur RMC Découverte. Le 3, Gilded Dragon est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider c'est le 12, Tilila, le 3 et le 12.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h37 sur RMC.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Les fissures de l'autoroute A13 et les embouteillages monstres, les grèves avant les JO, dans les aéroports, dans les métros, dans les trains, beaucoup de questions à vous poser. Patrice Vergritte, bonjour. Vous êtes le ministre des Transports et vous êtes l'invité du jour dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout de suite, on va faire un tour sur l'appli RMC. On va regarder vos réactions en direct autour de cette question. Faut-il ouvrir le débat sur la GPA en France? C'est ce que demande sur RMC la ministre chargée de l'enfance, Sarah Alaïri, alors qu'Emmanuel Macron a toujours répété son opposition à la GPA. Ça fait réagir Alain qui nous écrit une fois de plus concernant la GPA. Les politiques sont en retard, ils sont dépassés et c'est à peine maintenant qu'ils réagissent et qu'ils se posent enfin la question. Mais leur boulot, ça reste d'anticiper. Moi, je suis pour la GPA sur le principe, mais contre la marchandisation du corps de la femme. Voilà ce qu'écrit Alain. Julien lui nous dit, pour éviter que la GPA ne tombe entre de mauvaises mains et qu'on en fasse un principe financier avec toutes les dérives qu'on connaît, il faudrait faire par exemple comme pour les greffes, où tout est encadré, tenu, géré par le service public. Ça éviterait le rapport à l'argent, les dangers et la marchandisation du corps de la femme. Voilà la position de Julien, mais vous aussi, vous souhaitez réagir, témoigner autour de cette question de la GPA. Vous n'hésitez pas, vous connaissez le chemin. C'est le 32-16 et tous vos messages en direct sur l'appli RMC avec Direct Studio.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43, bon réveil, très belle journée à tous.
L'invité du jour.
Bonjour Patrice Vergriet, vous êtes ministre des Transports, merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Il y en a beaucoup qui se posent, je voudrais commencer par l'autoroute A13. Alors certes ça concerne surtout ceux qui vivent en région parisienne, mais enfin c'est une autoroute emblématique, très utilisée habituellement à 7h40, ils devraient être nombreux. Elle est vide, totalement vide, avec éventuellement quelques joggeurs et 2-3 vélos qui s'y promènent. Ça devait rouvrir mercredi, après la découverte de fissures, c'est repoussé.
Bonjour, ce sera probablement repoussé, on le saura dans une réunion technique qui a lieu ce soir. Et c'est à partir de là qu'on saura effectivement peut-être redéfinir une date. Ce qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment, c'est de trouver des solutions et finalement essayer de s'adapter à toutes les hypothèses possibles. Soit une réouverture rapide, et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, ce serait un moindre mal. Soit une réouverture plus longue, et dans ce cas-là, on est en train d'essayer de trouver des formules de substitution pour aider effectivement les habitants de cette partie de l'Île-de-France qui aujourd'hui connaissent des difficultés, mais qui ont bien joué le jeu. Vous l'avez vu, finalement, pas beaucoup plus de bouchons que d'habitude, comme quoi... Les habitants ont pu s'adapter, je les en remercie parce qu'ils ont entendu effectivement les conseils.
Ils ont pu s'adapter et si je vous entends, ils vont sans doute devoir s'adapter de manière un peu plus pérenne. Quoi, hein.
Sans doute, en tout cas on en saura plus ce soir. On est en train de travailler sur des solutions d'amélioration. On regarde notamment les plateformes de covoiturage, on est en échange avec eux aujourd'hui. Blablacar s'est engagé, mais aussi les autres. Carros et Instant pour essayer effectivement d'avoir des offres promotionnelles, voire la gratuité. On essaie de regarder si on peut avoir des offres complémentaires en termes de train. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais on essaie de répondre aujourd'hui par des solutions.
Et puis, il y a d'autres autoroutes qui peuvent être des alternatives, notamment la 86 ou la 13. La 13, elle est très chère. C'est une des autoroutes pour rentrer dans Paris qui est les plus chères. Est-ce que la 14, pardon. Oui. Est-ce que vous pourriez envisager que la 14, en substitution de la 13, et tant que la 13 est fermée, soit gratuite?
Alors, on a regardé. Et finalement, c'est peut-être ce serait peut-être encore pire que le mal, puisqu'on saturerait complètement le tunnel de la Défense. Donc c'est peut-être pas forcément une solution idéale. Vaut mieux encourager l'offre en réalité plutôt que susciter une demande à un endroit qui pourrait poser plus de problèmes. Donc on est en train de regarder toutes les solutions justement pour pouvoir s'adapter à toutes les hypothèses ce soir.
Et l'idée d'une rouverture partielle, par exemple, dans un sens, moins touché par les fissures, sur lequel on ferait au moins les camions, les voitures. Est-ce que...
Oui, ça risque d'être le cas très très probablement au moment de la réouverture. Néanmoins, il faut quand même la date.
Donc quand on rouvrira, sans doute on rouvrira pas pleinement.
Peut-être, oui.
Et on a bien compris que ce n'est pas tout de suite. Il a aussi beaucoup plu hier dans la région de Lyon. Je voudrais qu'on fasse notre point route un peu partout parce que à Lyon, la préfecture avait annoncé la fermeture de la 47 au niveau de Givors dans le sens Lyon-Saint-Etienne. Est-ce que c'est rouvert ce matin? Est-ce que vous avez des nouvelles?
J'ai pas encore de nouvelles, je ferai le point tout à l'heure et dans la journée.
Si vous avez des nouvelles avant la fin de cette interview, si votre équipe est en coulisses, les a, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Les Échos ont révélé hier le contenu de l'accord avec les contrôleurs aériens. Cet accord pour lequel vous étiez personnellement aux manettes, la grève annulée à la dernière minute la semaine dernière, on s'en souvient, qui a mis quand même des dizaines de milliers de voyageurs dans la panade. Et les conclusions, c'est donc une hausse de rémunération entre 226 et 1001 euros mensuels, hein, mensuels. Augmentation des pensions de retraite, 18 jours de récupération supplémentaire en échange d'un système de pointage. Honnêtement, vous nous avez parlé d'un accord gagnant-gagnant, c'est surtout gagnant pour les contrôleurs quand même, non?
Non, c'est un accord gagnant pour tous. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus. En France, on a un contrôleur aérien qui n'est pas performant. Et donc, c'est bien le gouvernement aujourd'hui qui a engagé une réforme profonde du contrôle aérien pour être plus performant. Et vous savez, les usagers aujourd'hui du trafic aérien, qui comptent les minutes de retard, notamment au moment des pics d'affluence, ils savent très bien qu'aujourd'hui, le contrôle aérien n'est pas performant. On a engagé une réforme profonde qui modifie fondamentalement les pratiques des contrôleurs aériens aujourd'hui. Et donc, c'était normal qu'on puisse avoir une discussion et un accompagnement social.
Mais vous l'avez déjà eu, cette discussion ?
Mais on a depuis 15 mois cette discussion avec les contrôleurs aériens. On a abouti à un accord aujourd'hui. Et l'accord, il est gagnant pour tout le monde. D'abord, gagnant pour les usagers. Parce que demain, les pics d'affluence seront mieux traités. On va gagner probablement 1 million de minutes de retard aujourd'hui. Deuxièmement, les compagnies aériennes qui sont en demande. Si c'était un accord défavorable, comme c'est les compagnies aériennes qui financent, elles devraient pas être d'accord. Or, aujourd'hui, les compagnies aériennes sont très contentes parce que le gain de performance, le gain de productivité de l'évolution aujourd'hui de la réforme, justement, du contrôle aérien, sera largement gagnant par rapport au coût que ça représente. Et donc, les contrôleurs aériens, c'est normal qu'ils aient une partie. Demain, on va les appeler la veille pour aller travailler. On va modifier leur planning de congé. On va tout modifier. Et ils ne devraient pas avoir la rémunération, effectivement, d'une productivité plus forte. Donc,
mais
c'est légitime.
Patrice Vergritte, ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on voit en 3 semaines, là, il y a la SNCF, où ils se sont retrouvés à avoir quasiment une annulation pour les contrôleurs de la SNCF de la réforme des retraites, des effets de la réforme des retraites. Ils vont pouvoir partir 18 mois plus tôt avec 75% du salaire. 18 mois avant l'âge légal de la retraite. À la RATP, il y a eu des primes qui ont été obtenues. Alors, on le comprend bien, hein, qu'il y ait besoin de primes pour la période des JO. Mais enfin, des primes jusqu'à 2600 euros pour les agents les plus mobilisés. Les contrôleurs aériens, vous le disiez, ils avaient déjà négocié il y a quelques mois. Ils ont renégocié avec quand même ce chantage à la grève des JO. On a bien l'impression qu'honnêtement, en ce moment, on est dans les transports. Hop, c'est le moment de négocier. C'est le moment de vous demander. Vous ouvrez toutes les boîtes de Pandore.
J'ai aucune boîte de Pandore ouverte. J'ai juste posé 2-3 points. Que chacune des entreprises de transport cherche à boucler ses négociations avant les JO, c'est normal. Les contrôleurs aériens, je vous ai dit, tout le monde est gagnant. Alors pourquoi on aurait un problème avec cet accord ? Tout le monde est gagnant dans l'affaire. La SNCF, un petit mot quand même sur la SNCF. D'abord, je tiens à préciser les choses, la réforme des retraites, elle s'applique partout, y compris dans les entreprises publiques. Mais qui dit entreprise publique dit aussi entreprise. Et donc la SNCF a le droit à ses accords d'entreprise, elle a le droit à ses aménagements. La question, c'est qui le paye ? C'est ça la question, fondamentalement. Voilà. Et on oublie une chose dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF est dans le jeu concurrentiel. C'est fini. On va invoquer des situations passées. Mais aujourd'hui, la SNCF est dans le champ concurrentiel. Donc, le contribuable ne contribuera pas à l'aménagement, à l'accord d'entreprise de la SNCF.
C'est pas le
zéro.
Contribuable, ce sera celui qui a
le client. Le client, aujourd'hui, la SNCF est dans le jeu concurrentiel. Enfin, regardez, en PACA. La ligne Marseille-Nice, elle a été donnée à Transdev. Elle a été donnée à Transdev parce que la SNCF n'était pas compétitive. Donc, ça veut dire que les accords d'entreprise doivent être financés par des gains de productivité internes à l'entreprise. Ni le contribuable, ni le client ne paiera cet accord d'entreprise et je m'en porte garant.
Mais qui va le payer, là?
Ben, ce sera les gains de productivité à l'intérieur de l'entreprise.
Ouais, enfin, le gain de productivité, ils vont bien. Ça va passer par une hausse des tickets.
Non, pas forcément.
Vous ne pouvez pas dire que le client ne paiera rien.
Ça ne peut pas passer par la hausse des tickets. Parce qu'avec la concurrence demain, vous irez prendre Trenitalia, vous irez prendre Renfe, ce sera un autre opérateur qui sera choisi par les régions.
Mais là, vous nous parlez des lignes qui touchent effectivement à l'étranger. Mais enfin, il y a les Bretons, pour les...
Non, Trenitalia arrive sur le Paris-Lyon, ils sont candidats sur le Paris-Lille, Renfe arrive également, vous aurez d'autres opérateurs. On a oublié que la SNCF, maintenant, rentrait dans le jeu de la concurrence. On considère toujours que c'est le monopole. C'est fini. Depuis, il y a eu une loi, et maintenant, la SNCF va être en concurrence. Et donc, s'ils augmentent le prix du billet, on choisira un notre opérateur, la SNCF perdra. Et ils ont déjà perdu. Sur Marseille-Nice, ils ont perdu. La région PACA a choisi un autre opérateur. Donc, arrêtons effectivement de taper sur la SNCF. Si, à un moment donné, on constate que la SNCF n'est pas compétitive, eh ben, les clients, les régions choisiront un autre opérateur.
Patrice Vergritte, ce qui me frappe quand même, c'est que les syndicats eux-mêmes pour la SNCF ont parlé d'une forme de revanche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont dit, finalement, on a annulé les effets de la loi retraite. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que à moins de 3 mois des JO, moi, si j'étais aujourd'hui contrôleur aérien ou contrôleur de la SNCF, je remettrais même ça sur la table dans 1 mois.
L'accord sur les contrôleurs aériens, il est signé, il est scellé, il est parti pour les 3 prochaines années. On va pouvoir engager cette réforme du contrôle aérien.
Mais vous êtes sûr que d'ici 3 mois, d'ici les JO, il n'y aura pas d'autres menaces de grève ? Ça y est, c'est bouclé, c'est fermé.
C'est signé. En tout cas, nous, on ne réouvrira pas ce champ-là. Ça, c'est une certitude.
Vous espériez d'ailleurs une forme de trêve olympique. Vous l'aviez dit, vous espériez, vous pensiez même pouvoir compter, en quelque sorte, sur le personnel des transports en France pour jouer le jeu des JO. Vous êtes déçu ?
Non, parce que je pense que effectivement on aura une belle image des transports pendant les JO aujourd'hui, qu'il y ait des discussions, que chaque entreprise cherche à fermer la discussion avant les JO, c'est légitime. Que ce soit la RATP, la SNCF ou le contrôle aérien, ils n'ont pas envie pendant les JO d'avoir des discussions. C'est normal. C'est une question de calendrier. Ils cherchent tous à fermer avant. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression d'une succession qui arrive aujourd'hui. Mais ces discussions, elles ont lieu chaque année, tout le temps, régulièrement dans une entreprise.
Les vélos, moins 14% de vente de vélos neufs. C'est juste une sorte d'équilibre du marché. Ça y est, les gens en ont acheté, il y a moins de demandes.
C'est un effet rebond parce qu'à la sortie du Covid, il y a eu beaucoup d'achats de vélos, et tant mieux. Il y a aussi le marché du recyclage qui se développe beaucoup. On était avec Roland Lescure il y a très peu
de
temps, effectivement, pour voir les industries du recyclage de vélos. Donc on voit apparaître une forme de normalisation après cette période post-Covid. Mais je suis très confiant pour l'avenir et je pense que la filière vélo a un très très bel avenir.
Les carburants quand même, on aura les derniers chiffres cet après-midi. On se rapproche des niveaux évoqués par Bruno Le Maire pour déclencher l'indemnité carburant autour des 2 euros. Est-ce qu'il faudra le faire?
On va en discuter à l'intérieur du gouvernement.
Mais vous n'êtes pas contre?
Pas forcément contre, on verra, mais en tout cas, aujourd'hui, en tout cas, il faut essayer d'avancer vers quelque chose d'équilibré aussi sur les comptes publics.
Et on va remercier Jean et Ali qui vous signalent, monsieur le ministre, sur Direct Studio, que l'A47 est bien rouverte ce matin.
Depuis
quelques minutes, voilà, l'info est remontée sur l'appli RMC.
C'est bon pour tous les Lyonnais. Merci Patrice Vergrit d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes le ministre des Transports, 7h50.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et dans un instant, Nicolas Poincaré sera avec nous, vous nous expliquez.
Et je vous explique pourquoi Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, veut créer un véritable statut du repenti.
A tout de suite.
Apolline Matin. Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles, avec une série très attendue qui débarque demain sur Netflix.
Oui, une série comique portée par Pierre Ninet. Ça s'appelle Fiasco. C'est l'histoire du tournage d'un film qui vire à la catastrophe. Pierre Ninet y incarne un jeune réalisateur naïf, incapable de diriger.
Allez, ça tourne. Action, tu peux dire action.
Action.
Un peu plus fort.
Plus fort.
Ah non, tu dis action plus fort.
Action.
Ouais. Voilà, il est entouré de Géraldine Nakache, qu'on vient d'entendre, en assistante, Vincent Cassel, qui joue la star de ce film qui tourne à la catastrophe, ou encore François Civil, dans le rôle de son meilleur ami.
Si je me loupe, j'aurai pas d'autre chance. C'est mon premier et mon dernier film.
Ça va le faire, là, faut que tu te reboostes, hein. Oublie tous les gens qui disent que t'es qu'une merde sans aucun charisme.
Hein? Pourquoi, qui dit ça?
Non, mais personne, mais les gens à l'internat, quoi, au village, ta famille aussi.
Bon, allez, super, t'as bien fait de passer, toi, c'est comme ça que tu me remontes le moral.
Voilà, un gros casting pour cette série conçue et réalisée par le même créateur que Family Business, déjà sur Netflix. Ça s'appelle donc Fiasco, 7 épisodes, mis en ligne dès demain.
Coupez, coupez.
Non, non, c'est Raphaël qui dit coupé.
Non, mais c'est son pied qui est coupé.
Voilà, alors oui, coupé. Gaï, c'est le pied qui est coupé.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h54, expliquez-nous Nicolas.
Expliquez-nous.
Nicolas Poincaré, le ministre de la Justice, veut créer en France un véritable statut du repenti. Éric Dupond-Moretti l'a annoncé hier en précisant qu'il voulait s'inspirer de ce qu'il se passe en Italie.
Oui, alors les repentis existent déjà en droit français. On les appelle les collaborateurs de justice. Leur statut a été défini par la loi Perben en mars 2004. Elle dispose que toute personne qui prévient la justice d'un crime sera exemptée de peine ou d'une partie de sa peine et qu'il pourra bénéficier d'une nouvelle identité pour échapper aux représailles. Une commission nationale de la protection et de la réinsertion délivre actuellement ce statut de repenti. Elle décide du niveau de protection nécessaire. Elle organise le soutien matériel, le déménagement, le financement de la nouvelle vie et surtout l'attribution d'une nouvelle identité qu'on appelle une légende. Ça fait donc 20 ans qu'en France, tout cela existe et qu'on peut donc encourager et protéger les repentis.
Sauf que pour l'instant, ça reste assez exceptionnel.
Exactement. Les conditions d'accès à ce statut sont très restrictives, si bien qu'en 20 ans, le statut n'a été accordé qu'à 18 repentis, moins de 1 par an. En comptant leurs proches, les conjoints, les enfants, c'est en tout 42 personnes seulement qui ont bénéficié d'une protection. C'est trop peu, a commenté hier Éric Dupond-Moretti sur BFM TV. Le garde des Sceaux explique que les acteurs du grand banditisme et les gros trafiquants de drogue connaissent désormais parfaitement les méthodes des policiers. Ils savent comment déjouer les surveillances, ils ne laissent pas de traces ADN, ils ne se laissent pas suivre ni écouter, ils repèrent les balises qui sont placées sous leur voiture. Et c'est pour cela que le meilleur moyen, on va dire même le seul moyen pour les coincer, eh bien, c'est le témoignage de leurs complices lorsqu'ils deviennent des repentis. Le ministre de la Justice veut donc faciliter, élargir les conditions d'accès à ce statut de collaborateur de justice. La nouvelle identité qui leur sera attribuée sera officielle et elle sera définitive, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Le repenti, pour être reconnu comme tel, devra, par ses déclarations sincères, devra faire des déclarations sincères, complètes et déterminantes pour démanteler des réseaux criminels.
Éric Dupond-Moretti précise qu'il veut s'inspirer du système italien. En quoi ça consiste ?
Alors la différence, c'est surtout une question d'échelle en fait. Une vingtaine de repentis en France seulement contre plus d'un millier en Italie. Et avec les familles, ce sont quelques 5000 personnes qui ont été protégées là-bas. Les Italiens ont inventé ce système dans les années 80, d'abord pour lutter contre le terrorisme, puis très vite pour démanteler les mafias. Le repenti le plus célèbre, c'est Tommaso Buscetta, dit le traître. Il purgeait une peine de perpétuité lorsqu'il a décidé de tout balancer au juge Falcone dans les années 80. Il voulait se venger de Toto Riina, le parrain des parrains, qui avait fait assassiner deux de ses fils, son frère, son gendre et quatre de ses neveux. Les aveux de Buscetta ont abouti à la condamnation de 350 mafieux lors d'un maxi-procès historique. Buscetta a ensuite été libéré de prison. Il a refait sa vie en Floride avec une nouvelle identité et avec un nouveau visage qui avait été refait par un chirurgien esthétique. Il est mort de sa belle mort à 71 ans au début des années 2000. Éric Dupond-Moretti donc rêve d'un Buscetta français qui balancerait les plus gros bonnets du trafic de drogue.
Les explications de Nicolas Poincaré chaque jour à 7h50 et à tout moment, évidemment, en podcast. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.